VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Merci d'écouter VOA Afrique, le monde aujourd'hui, édition du lundi 25 juillet 2016. En direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson à la une ce matin.
Des familles des victimes du crash d'Air Algérie qui a tué 116 personnes le 24 juillet 2014 réclament la vérité.
Un dialogue inclusif et sincère au Tchad, c'est l'appel que lance aux acteurs politiques tchadiens Jeffrey Feltman, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques.
En République démocratique du Congo, la coalition de l'opposition que préside Étienne Tshisekedi rejette le projet de dialogue national du facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo.
Et si on faisait le tour au marché des chenilles ?
Papa, viens acheter les chenilles ! Papa, viens !
C'est juillet, c'est la saison et ça se passe à Bangui.
Après les Républicains avec Donald Trump la semaine dernière, c'est le tour des démocrates de tenir leur convention qui doit sacrer Hillary Clinton comme candidate à la présidentielle de novembre.
Ne manquez pas les sports et l'économie, mais d'abord le journal.
Des familles des victimes du crash d'Air Algérie qui a tué 116 personnes le 24 juillet 2014 réclament donc la vérité. Hier dimanche, elles ont commémoré au Burkina Faso le deuxième anniversaire de cette tragédie. Les familles des victimes ont notamment estimé que la compagnie avait affrété une épave volante et mis en cause l'équipage.
Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, appelle les acteurs politiques tchadiens à un dialogue inclusif et sincère. Feltman, qui vient de séjourner au Tchad, exhorte toutes les parties à s'abstenir de tout acte de violence. L'opposition tchadienne accuse le président Idriss Déby Itno de fraude massive à la présidentielle d'avril dernier, qu'il a remportée au premier tour. Des élections législatives doivent se tenir d'ici la fin de 2016, mais la date n'a pas été fixée. Pour une réaction, Timothée Donamaï a joint à N'Djamena Mamat Nour Ibedou, il est porte-parole de « Ça suffit », une plateforme de la société civile.
Il sert à vraiment du pont sur la plage parce que oui, les positions tranchées, ça vous paraît un peu difficile. Mais on ne sait jamais, vous savez, les politiciens, on ne sait jamais.
Mais vous, de la société civile, quelle est votre position?
Nous, n'ayant pas vocation à prendre le pouvoir, nous sommes surtout du côté de la légitimité. Parce que nous estimons que, quand même, tout le monde a reconnu avec nous qu'il y a eu un vol massif. On voit qu'il y a eu des fraudes massives. Le président Déby, au premier tour, ça a été quand même flagrant. Pendant que nous, de la société civile, nous pensons que, en fait, cette élection devait être reprise, en fait.
En République démocratique du Congo, la coalition de l'opposition que préside Étienne Tshisekedi rejette le projet de dialogue national du facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo. Des détails avec Timothée Donangmaï.
En annonçant en fin de semaine à Kinshasa les travaux du comité préparatoire du dialogue national qui doivent débuter le 30 juillet, le facilitateur Edem Kodjo avait pourtant assuré que tout le monde est maintenant dans les bonnes dispositions pour aller au dialogue proprement dit. Le rassemblement des forces politiques et sociales de la RDC acquises au changement que dirige l'opposant historique Étienne Tshisekedi n'est pas de cet avis. Dans un communiqué publié à Bruxelles, cette coalition déplore, et je cite, « la précipitation avec laquelle M. Kodjo a lancé unilatéralement l'invitation pour les travaux préparatoires du dialogue ». Dans la même foulée, la coalition a récusé le facilitateur de l'Union africaine. Le président congolais Joseph Kabila avait annoncé en novembre dernier son intention de convoquer un dialogue national inclusif en vue d'élections apaisées en RDC. L'opposition avait en grande partie boudé ce projet, accusant le président congolais de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son dernier mandat qui expire en décembre.
Les autorités zambiennes ont décidé dimanche d'annuler un concert du célèbre chanteur congolais Koffi Olomide. Ce dernier a été expulsé vendredi du Kenya pour avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses. Koffi Olomide devait se produire la semaine prochaine dans un salon de l'agriculture à Lusaka. En août 2012, Koffi Olomide, dont la discographie compte pas moins de 26 albums, avait été condamné à Kinshasa à 3 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires contre son producteur.
Des milliers d'habitants de la capitale sierra-léonaise, Freetown, se sont rués ce week-end dans une décharge publique pour y déterrer des poulets avariés importés du Brésil et ensevelis par les autorités sanitaires pour éviter toute contamination. Ces poulets ont été importés le 12 juillet du Brésil par un homme d'affaires, mais jugés impropres à la consommation par les services de santé du pays. Les carcasses ont alors été enterrées dans un dépôt d'ordures dans l'est de Freetown, mais des milliers de personnes ont assiégé le site pour récupérer une partie des stocks, a indiqué le ministère de la Santé.
Les corps de 41 migrants morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe ont été retrouvés sur une plage de Sabratha, une ville côtière dans l'ouest de la Libye. L'information est de l'AFP qui cite une source locale. En raison des conditions maritimes plus favorables, plusieurs milliers de migrants ont tenté depuis le printemps la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie. Le conseil local de Sabratha a récemment formé une équipe de bénévoles pour récupérer les cadavres de migrants qui échouent sur les plages et a demandé aux habitants de signaler la présence d'éventuels corps sur les côtes.
Des milliers de Marocains ont manifesté dimanche à Rabat contre une nouvelle loi sur le relèvement de l'âge légal du départ à la retraite pour les fonctionnaires. Une majorité de députés, 70 contre 35, a voté mercredi en faveur d'une série de projets de loi sur le régime des retraites, prévoyant notamment un recul de l'âge du départ à la retraite de 60 à 63 ans. Arborant des pancartes avec l'inscription « Liberté, dignité et justice sociale », les manifestants se sont rassemblés dans le centre de la capitale à l'appel de la Coordination nationale contre la réforme des retraites, qui rassemble des syndicats et des membres de la société civile, avant de prendre la direction du Parlement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Tout le Parti démocrate converge cette semaine à Philadelphie pour la convention qui doit sans surprise sacrer Hillary Clinton comme candidate à l'élection présidentielle du 8 novembre prochain. Une convention historique, Hillary Clinton sera la première femme à être investie par l'un des deux grands partis des États-Unis, mais qui n'est pas sans rebondissement. On retrouve Tatiana Mosso, l'une de nos envoyées spéciaux à Philadelphie.
Philadelphie fut un temps la capitale des États-Unis, là où fut rédigée la Constitution américaine. La ville est prête à vivre un autre moment de l'histoire du pays avec cette convention. Placée sous le signe de l'unité, la convention démocrate s'ouvre ce lundi au Wells Fargo Center, une unité qu'il faudra confirmer avec la démission annoncée de la présidente du parti, Debbie Wasserman Schultz, qui quittera son poste tout de suite après la convention. En cause, la fuite ces derniers jours de milliers de courriels démontrant que l'organisation du Parti démocrate avait pris position ouvertement pour Hillary Clinton contre Bernie Sanders. En attendant, le programme s'annonce fastueux. Des discours de la première dame des États-Unis, Michelle Obama, et de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont. Tout ce que le Parti démocrate compte d'étoiles montantes et de poids lourds, notamment le président Barack Obama et l'ancien président Bill Clinton, qui s'exprimeront à la tribune au fil des 4 jours de la convention. Les forces de l'ordre ont commencé à quadriller la zone de la convention, mais alors qu'à Cleveland, les manifestations anti-Trump ont été négligeables, dépassant rarement la centaine de personnes, les divers organisateurs de rassemblements s'attendaient à plusieurs milliers de personnes à Philadelphie, des milliers d'irréductibles de Bernie Sanders qui défilaient dans les rues de la ville. Certains annonçaient déjà qu'ils ne voteraient jamais pour Hillary Clinton. Tatiana Mosso, VOA Afrique, Philadelphie.
Ce matin, les autorités allemandes parlent d'attentats au sujet de l'explosion survenue hier soir dans le centre-ville d'Ansbach, une ville du sud du pays. Les autorités n'excluent pas une motivation islamiste. Selon le ministre de l'Intérieur du Land de Bavière, Joachim Herrmann, le poseur de bombes, un demandeur d'asile syrien âgé de 27 ans, est mort dans l'explosion de son engin. Ce dernier a aussi blessé 12 personnes, dont 3 grièvement.
Le président turc doit évoquer ce lundi les conséquences du coup d'État manqué du 15 juillet avec les dirigeants de l'opposition qui ont manifesté en masse pour soutenir la démocratie et dire leur inquiétude devant la riposte du pouvoir au putsch avorté au moment où démarrait dimanche une manifestation à l'appel du principal parti d'opposition. L'ONG Amnesty International a affirmé de son côté avoir réuni des preuves crédibles attestant de torture et même de viol de personnes détenues en Turquie après la tentative de coup ratée.
Les dirigeants de la Ligue arabe se réunissent en sommet ce lundi et demain à Nouakchott, en Mauritanie, pour discuter de la sécurité dans le monde arabe et d'une force commune aux 22 membres de l'organisation. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue, en conclave samedi, ont soutenu tout ce qui peut permettre de résoudre les crises qui secouent le monde arabe, notamment les crises syriennes, libyennes et yéménites, selon des documents publiés lors de cette rencontre. Ils ont appelé à une solution définitive du conflit israélo-arabe et saluer des initiatives de paix égyptiennes et françaises en cours. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec John Lindon.
Les travaux du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'ouvrent aujourd'hui à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. Le montant des échanges commerciaux globaux entre ces deux pays s'élevait en 2014 à plus de 289 milliards de francs CFA. La rencontre entre le président Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kabore est quant à elle prévue vendredi. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, a indiqué ce week-end à Maré aux Seychelles que les pays africains pourraient réaliser leur industrialisation en focalisant leurs efforts sur les matières premières disponibles localement et en soutenant le développement des entrepreneurs locaux. Obasanjo s'exprimait devant les participants aux travaux du groupe consultatif de la Banque africaine d'import-export sur le financement du commerce et le développement des exportations en Afrique. Ici aux États-Unis et selon plusieurs médias américains, Verizon va annoncer ce lundi le rachat pour 4,8 milliards de dollars du cœur de métier du groupe Internet américain en difficulté qui comprend de célèbres services en ligne à l'instar des Yahoo News ou Yahoo Mail.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique et c'est l'heure des sports. On retrouve Élisée Mpatine à Boïkon au Bénin. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour.
On commence par du basketball avec la CAN des moins de 20 ans. La compétition démarrée depuis vendredi dernier se poursuit au Rwanda.
Et justement dans le groupe A, le pays hôte s'incline devant le Mali pour sa troisième sortie, battu 40-61. Les deux équipes ont chacune deux victoires en trois sorties. Dans le groupe B, l'Angola aligne son troisième succès en venant à bout de l'Ouganda 105-59. Les Palancas Negras Junior partagent désormais la première place de ce groupe avec l'Égypte, vainqueur de la RD Congo 95-68. Toujours dans ce groupe, la Tunisie enfonce davantage le Bénin. Les Aiglons ont dominé les Écureuils Juniors 86-33, infligeant du coup une troisième défaite aux Béninois. La compétition se poursuit aujourd'hui avec au programme trois rencontres.
Élisée, on passe au football. Le Cameroun se qualifie pour la CAN 2017 des moins de 20 ans.
Oui, battu 1-0 par la Libye au match retour, les Camerounais l'avaient déjà emporté au match aller 3-0. Qualification également pour le Mali, vainqueur 2-0 du Burkina Faso après son nul 0-0 du match aller. La Guinée sera aussi présente en Zambie. Le Sili National a éliminé la Gambie après sa victoire 2-0. 0-0, voilà le score du match aller.
Et puis cette CAN qui aura lieu en Zambie l'an prochain ne verra pas le Nigeria et le Ghana.
Effectivement, deux habitués et exploits du Soudan qui se qualifient en éliminant le Nigeria, tenant du titre et recommande du nombre de victoires dans la compétition. Succès 4-3 au terme d'un match spectaculaire à Lagos. Le Soudan avait été pourtant battu 2-1 lors du match aller. Élimination également du Ghana malgré sa victoire de 1-0 devant le Sénégal. Les Lionceaux passent au bénéfice de leur victoire de 3-1 à l'aller. En revanche, l'Égypte, quatre fois vainqueur de cette compétition, valide son billet. Les Pharaons ont surclassé 4-0 l'Angola. Enfin, pas de problème non plus pour l'Afrique du Sud. Qualification validée face aux Lesotho 3-0.
Parlons athlétisme à présent. Dernière étape de la Ligue des Diamants avant les Jeux de Rio, avec le meeting de Londres qui a vu un triplé kényan sur le 1000 mètres.
Une distance absente des Jeux de Rio, il faut le rappeler, et la victoire est revenue à Silas Kiplagat. Notons la superbe performance de Marie-Josée Talou. La sprinteuse ivoirienne a remporté le 100 mètres devant deux pointus de la discipline, la trinidadienne Michelle Lee Aye et la jamaïcaine Shelly Fraser-Pryce, double championne olympique. Et surtout, elle passe pour la première fois sous les 11 secondes avec un temps de 10 secondes 87 centièmes réalisé en série et en finale. Et puis la Tunisienne Habiba Kribi remporte les 3000 mètres steeple en 9 minutes 21 secondes et 35 centièmes devant la Kenyane Purity Kirui.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagasse Koura de retour avec vous sur VOA Afrique en direct de Washington. Nos dossiers du jour. Au Mali, après l'attaque djihadiste contre Nampalas dans le centre du pays, dans la région de Ségou, le gouvernement a réinstauré l'état d'urgence. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis les attentats à la terrasse en mars 2015, les autorités maliennes ne font que proroger cette disposition visant à restreindre certaines libertés. Mais les comportements des Maliens n'ont pas vraiment changé. Kassim Traoré nous en dit plus à Bamako.
Le Mali est à son énième instauration d'état d'urgence. Sori Diakité, administrateur de l'action sociale.
Je pense que par définition, l'état d'urgence peut être conçu comme une restriction temporaire de liberté consécutive à une situation bien déterminée à un moment précis de l'histoire d'une localité ou encore d'une nation. Quant à la situation actuelle de l'état d'urgence au Mali, après sa première installation jusqu'à nos jours, le concept n'a pas été suffisamment expliqué à la population, raison pour laquelle la population est en train de divaguer entre les conceptions de l'état d'urgence et de couvre-feu.
Si du côté de la population, l'état d'urgence n'est pas compris, tel n'est pas le cas pour les forces de sécurité qui, pendant cette période, peuvent procéder à des perquisitions dans les domiciles ou interpeller des personnes sans passer par la justice. Cela ne suffit pas selon Mamadou Sidibé.
Je ne vois pas vraiment, l'impact n'est pas visible puisque les gens sortent n'importe quand, n'importe comment, ils vont où ils veulent, quand ils veulent. Donc, on ne peut pas parler dans ce cas de l'instauration d'un quelconque état d'urgence. Le gouvernement devrait d'abord passer à une sorte de sensibilisation, passer, c'est-à-dire faire une médiatisation de l'état d'urgence. Donc je vois que jusque-là, cet état d'urgence n'est pas respecté. Nous sommes trop habitués au laisser-aller, au laisser-faire.
L'état d'urgence n'a rien changé dans le comportement des Maliens. Surtout les dimanches, ce sont des cortèges de mariage qui défilent dans la rue de Bamako. Sidi Samake, étudiant.
Malgré l'état d'urgence, vous voyez, il y a plein de cérémonies qui se passent dans la ville. Donc ça va à l'encontre de l'état d'urgence. Donc il vaut mieux qu'on sensibilise la population par rapport à l'état d'urgence, qu'on leur informe plus sur qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence, comment est-ce que la population doit se comporter lorsqu'il y a l'état d'urgence. Par rapport, vous voyez, les policiers partout dans les villes pendant la nuit. Ça, quand même, ça, c'est un impact positif.
Face à la méconnaissance de l'état d'urgence, le gouvernement doit accentuer la sensibilisation des populations. C'est du moins l'avis de Sori Diakité, administrateur de l'action sociale.
Il va quand même falloir pour le gouvernement de revenir à la table et de donner plus d'explications à la population, car il y a beaucoup de radios privées, il y a des journaux et il y a beaucoup de télé privées actuellement au Mali. Donc il y a beaucoup de moyens de communication actuellement que le gouvernement peut mettre à profit pour pouvoir mieux informer la population afin de faire l'état d'urgence une réussite totale dans ce pays en insécurité totale.
Actuellement, il y a un état d'urgence de 10 jours qui risque d'être prorogé par le Parlement malien.
La prolongation de l'état d'urgence, je dis que ça n'a pas d'impact positif. Ça ne fait quand même qu'installer une certaine tension dans la population. Ça fait peur à la population, mais en réalité, il fallait quand même donner suffisamment d'explications. Quand le concept est bien clair, bien défini, donc les gens savent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant ce temps-là. Donc s'il n'y a pas d'explication, rien ne sert à la prolongation de l'état d'urgence.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Cameroun, quand va-t-on indemniser les familles déplacées pour des raisons de construction d'infrastructures? La question reste posée, mais pour l'heure, ce sont des fonctionnaires qui ont été emprisonnés pour détournement de ces fonds d'indemnisation. De Yaoundé, la correspondance de Sandrine Idé-Yamga.
Au Cameroun, des populations ont été déguerpies dans plusieurs localités pour des projets d'envergure, soit la construction d'une route ou de quelconque infrastructure. Seulement au départ de tous ces projets, le même refrain est entonné, celui de l'indemnisation des populations riveraines. Du projet de construction du barrage hydroélectrique de Lompangar à l'est Cameroun à celui de la construction du port en eau profonde de Kribi dans le sud Cameroun, la problématique est la même. Pour ce dernier cas, par exemple, des fonctionnaires ont été mis aux arrêts après que leur gestion du dossier des indemnisations a été décriée. 6 années après le début de l'opération, ces agents de l'administration camerounaise sont soupçonnés d'avoir, selon les autorités, détourné environ 4 milliards de francs CFA, représentant les indemnisations des populations des Garpi à Kribi. Omar Ndoumbé, habitant de Kribi, est proche d'une victime d'expropriation.
Vous savez que cette magouille était en train d'être faite par les autorités administratives. Vous savez, c'est eux qui ont l'information. Quand ils ont su que le port allait être créé et qu'il y aurait forcément des indemnisations, eh bien, ils se sont, en complicité avec les détenteurs de terrain, autorisés à faire des titres fonciers frauduleux.
Dans la ville de Douala, au Cameroun, autour de la construction du deuxième pont sur le Vouré, des populations ont dénoncé le processus d'indemnisation mis sur pied. Papa Joseph reste encore sous le choc en se rappelant d'une scène vécue lors du partage des sommes dues aux populations des guerpés du lieu dit Bonantonais, parmi lesquelles un inconnu.
Voilà, donc on va s'excuser pour la qualité de cet élément, donc de Douala, de Sandrine Idé Yamga. On passe en République centrafricaine où les chenilles sont un mets très prisé une fois par an dans ce pays. Cet aliment inonde les marchés de la capitale ce mois de juillet. Les centrafricains en raffolent, les commerçantes font des bénéfices, mais les bouchers, eux, éprouvent des difficultés pour l'écoulement de leur viande. Reportage de Bangui, de Freeman Sipila.
Papa, viens acheter les chenilles. Papa, viens.
Tous les marchés de Bangui sont inondés de chenilles ce mois de juillet. Pour ravitailler la capitale, certaines vendeuses grossistes doivent se rendre dans la préfecture de la Lobaye, à plusieurs centaines de kilomètres au sud-ouest de Bangui. D'autres, par contre, en achètent au marché de Bimbo, à 9 kilomètres à la sortie sud de la capitale, comme Gisèle, vendeuse détaillante, ici au marché de PK12 à la sortie nord.
Je vais acheter Bimbo. Je vais acheter pour 10 000, 15 000, 18 000, comme ça. Je trouve bénéfice parfois 2500, parfois 3000, parfois 1500. C'est loterien.
Les chenilles appelées Makungu en Sango sont très prisées en centrafrique. Une vraie aubaine pour les vendeuses qui discutent sans relâche les prix avec leurs clients.
Papa, ça c'est les cadeaux.
Non, faut ajouter un peu.
Cher.
Non, c'est moins cher.
Non, papa,
quand même.
C'est cher.
Non, les enfants sont trop en à la maison.
Fini, papa,
ce que t'as pas préparé, ça va diminuer.
Les chenilles sont économiques pour les ménages et très appréciées pour leur saveur. Vianney Azoukati est un des consommateurs.
Si, moi je consomme aussi les chenilles. J'aime beaucoup les chenilles parce que ce sont des aliments qui me plaisent beaucoup. Bon, quand je mange les chenilles, ça me fait du bien. Ma grand-sœur, elle a toujours l'habitude de nous payer ça chaque soir. Donc, j'aime beaucoup les chenilles. J'ai commencé à consommer cet aliment depuis mon enfance. Le problème qui se pose, c'est quoi? Les vendeuses des chenilles, elles augmentent beaucoup les prix.
Même si cet aliment est à la une, entre juillet et août de chaque année, certaines personnes comme Freddy Yassingi n'en consomment pas.
Chenille, c'est pas comestible à moi, parce que lorsque je consomme et après, ça me fait pas bien. C'est pour cela que je n'aime pas chenille. Ça boule la bouche, quoi. C'est pour cela que je n'aime pas.
Pendant la saison des chenilles, les grands perdants sont parfois les bouchers qui comptent leurs clients au bout du doigt. Frédéric Mbioko est secrétaire général de l'association des bouchers du marché combattant dans le 8e arrondissement.
C'est pas celui-ci au marché combattant, mais tous les bouchers de la République centrafricaine, pour l'instant, au moment du chenille, là, ils ont des problèmes par rapport à l'évacuation. Le maximum de peuples centrafricains veulent seulement manger des chenilles à cette époque-là.
Mango, descend là.
Freeman Sipila Bangui, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Voilà, c'est la période des vacances. Et comment des élèves au Burkina Faso occupent leur temps pendant ces vacances scolaires? Il y a ceux pour qui vacances riment avec repos. Et puis, il y a ceux qui travaillent pour se faire des économies pour la rentrée ou pour aider leurs parents. Manan Wonogo est notre correspondant à Ouagadougou.
Comme l'a dit un chanteur célèbre ici au Faso, vive les vacances, finis les devoirs, les dictées, les interrogations, c'est le repos. Mais tous les élèves ne prennent pas les vacances comme un temps de repos total, partagé entre les loisirs, le sport et les voyages. Certains font des jobs de vacances, suivant leur histoire.
Kaboulé Ali, j'ai fait la classe terminale, j'ai passé cette année le bac, ça n'a pas marché. Maintenant les vacances, j'ai pas le temps de jouer au ballon, j'ai fait le commerce. Les vacances, c'est le repos, mais il faut que je fasse ça pour soulager mes parents. Je vends les montres, je vends tous les habits, sorte de marchandises que je peux vendre, avoir de bénéfices. Je tourne dans la ville pour avoir les clients. Je prends 25 000 livres avec ma maman chaque vacances pour commencer le commerce. D'ici la rentrée, je peux avoir un mot. C'est que l'agent de la scolarité, je peux avoir ça pour... Et puis me payer des habits et puis des cahiers, c'est pas bon de dormir. Grâce à mon commerce, à la rentrée, je vais soulager mes parents.
Je m'appelle Wamba Florent, élève en classe de seconde. Pendant les vacances, j'aide ma tante à vendre les condiments au marché, les légumes, tomates, oignons. Cela me permet de rencontrer beaucoup de gens, de me divertir aussi. À la fin de la journée, elle me remet une somme de 200 francs. On peut pas dire qu'elle me paye. Bon, c'est un encouragement en quelque sorte. Je vais cotiser l'argent et à la rentrée, je vais me payer quelques habits. Comme ce sont les vacances, je préfère me concentrer sur ça et laisser à la rentrée pour penser aux études. Je dis aux autres de suivre mon exemple. Même si ce n'est pas vendre les condiments, peut-être qu'ils peuvent faire autre chose au lieu de rester à la maison, ne rien faire.
Moi, je me nomme Charles Abdul Karim. Je suis élève. Je suis privé Marie-Véronique, seconde C. Pendant ces vacances-là, je suis dans un atelier de couture pour apprendre à coudre, pour ne pas rester à la maison, quoi. Et puis ne rien faire. En faisant la couture, je gagne de l'argent. Ça occupe mon temps. Voilà. Donc, j'arrive à gagner les petits choses que. J'utilise pour acheter des petits choses que j'ai envie, quoi. Grâce à la couture, là, j'arrive à gagner de l'argent que j'achète mes fournitures pendant la rentrée. Je gagne beaucoup, comme apprendre à coudre les habits. Ensuite, je gagne de l'argent qui va me permettre d'acheter mes fournitures pendant la rentrée scolaire prochaine. Sac à cahier, bic, chaussures aussi. Bon, ça soulève en même temps les parents. Les élèves, là, je les encourage beaucoup à ne pas rester à la maison sans rien faire.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAfrique.com. À tout de suite.
Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Gardez la conversation et c'est sur notre page Facebook. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. C'était Bagassi Koura ici à Washington.